Jean Ziegler, vous publiez aux éditions Albin Michel un essai au titre extrêmement fort, La haine de l'Occident. C'est un très beau poème d'Aimé Césaire qui ouvre l'avant-propos du livre. Pour démarrer cette émission, j'aimerais vous demander de nous le lire.
Alors voilà le poème d'Aimé Césaire, tiré du calendrier lagunaire. J'habite une blessure sacrée, j'habite des ancêtres imaginaires, j'habite un vouloir obscur, j'habite un long silence, j'habite une soif irrémédiable, j'habite un voyage de 1000 ans, j'habite une guerre de 300 ans.
C'est un magnifique poème d'Aimé Césaire dont vous citez d'autres phrases par la suite, notamment un chapitre qui s'intitule « L'heure de nous-mêmes est venue ». Votre livre, vous annoncez son projet d'emblée, sans détour, à votre manière. La haine de l'Occident, cette passion irréductible, habite aujourd'hui une grande majorité des peuples du Sud. Alors en quoi est-elle une passion et en quoi est-elle irréductible ?
D'abord, je voulais faire une remarque préliminaire pour évacuer tout de suite un malentendu possible. On a longtemps réfléchi avec mes éditeurs si le titre « La haine de l'Occident » n'était pas trop choquant pour un public occidental, justement, puisque le livre paraît à Paris et ensuite est traduit essentiellement dans les principales langues occidentales. Il y a deux types de haine. Il y a la haine pathologique. Enfin, les deux types s'enracinent dans la même souffrance du colonialisme, du déni d'identité, etc. Enfin, il y a la haine pathologique, celle d'Al-Qaïda, des salafistes, des djihadistes. La haine de l'Occident qui ressemble à la maladie mentale. Cette haine-là ressemble à la maladie mentale, le terrorisme, jeter des bombes dans des trains de banlieue de Madrid, détruire par voie d'avion des tours jumelles à New York, tuer près de 3 000 personnes d'un seul coup une matinée de septembre. Quelle que soit, pour cette haine-là, pour cette haine pathologique, quelle que soit la légitimité, intimation à invoquer, religieuse et autres, elle est irrécevable. Cette haine-là doit être combattue, le terrorisme doit être combattu. D'ailleurs, ceux qui se réfèrent à l'islam tout en jetant des bombes sur des enfants font exactement le contraire de ce que dit le Coran, d'ailleurs. De toute façon, ça n'a rien à voir avec l'islam tel qu'il est réellement. Bon, cette haine pathologique qui occupe quand même l'actualité, je la condamne totalement. Mais il y a une autre haine qui est une force révolutionnaire aujourd'hui, une force historique, puissante, qui s'est manifestée, qui se manifeste en Bolivie aujourd'hui, au Venezuela, ailleurs, et qui se manifeste au sein des Nations Unies. Je vois les ambassadeurs du Sud.
Vous l'appelez la haine raisonnée.
C'est la haine raisonnée. Quelque chose de très étrange est en train de se passer. Une mémoire depuis longtemps enfouie parmi les peuples du Sud est en train de ressurgir. Tout à coup, la mémoire de l'esclavage revient, de cet effroyable crime contre l'humanité qui a duré 350 ans, qui a fait déporter, qui a ravagé, tué 400 millions d'êtres humains africains essentiellement. Ensuite, la mémoire de la colonie, du colonialisme, qui était aussi un crime effroyable sous quelques aspects qu'on le regarde. Or, l'esclavage date d'il y a 120 ans, puisque le dernier pays à l'avoir aboli, c'est le Brésil, 1888. L'esclavage n'existe plus dans sa forme institutionnelle depuis 120 ans, la terreur coloniale, l'occupation coloniale des pays du Sud est terminée pratiquement depuis 50 ans. Et c'est maintenant seulement que cette mémoire, cette revendication identitaire remonte, que ces peuples du Sud, à la Conférence mondiale contre le racisme à Durban en 2001, réclament réparation et réclament repentance. Et l'Occident refuse. Répond par l'arrogance, M. Sarkozy à Dakar et à Alger, par l'arrogance, par un aveuglement total, pire, par une justification proche du racisme des bienfaits de la colonisation. Donc il y a une sorte de rupture radicale maintenant dans la communauté internationale et constitutivement dans les Nations Unies, qui fait qu'aucun des grands problèmes du millénaire, aucune des grandes tragédies la faim, les épidémies, les guerres locales, l'eau polluée, etc., ne peut être résolue, puisqu'encore une fois, l'Occident se trouve face à un Sud qui, lui, refuse le double langage de l'Occident, qu'il a longtemps toléré. Quand l'ambassadeur, je parle de mon expérience aux Nations Unies, quand un ambassadeur à l'ambassadeur américain à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York ou au Conseil des droits de l'homme à Genève prêche les vertus de la démocratie, eh bien c'est une insulte pour le peuple du Sud, puisque les Américains torturent à mort leurs prisonniers, leurs suspects à Abu Ghraib, à Guantanamo. Quand un ambassadeur français parle du pays des droits de l'homme qui est la, soi-disant la France, fait une revendication universelle au nom de la France et au nom de ses valeurs, c'est irrécevable pour un ambassadeur africain, puisque la France, comme les autres pays de l'Union européenne, organise la famine par le dumping agricole en Afrique.
Alors on va, parce que vous êtes un magnifique pédagogue, donc vous faites une synthèse remarquable de votre livre, mais j'aurais lu qu'on revienne sur un point pour bien clarifier les choses. Vous avez bien défini les deux types de haine qui existent. Dans votre livre, vous définissez aussi ce qu'est l'Occident. Et parce que il faut bien qu'on comprenne, la haine de l'Occident, c'est la haine qu'inspire l'Occident. Ce n'est pas la haine que l'Occident éprouve à l'égard de. Donc c'est la haine qu'inspire l'Occident. Et vous trouvez une série de raisons à cette haine, la mémoire, comme vous venez de le dire, mais aussi la mémoire blessée. Et vous expliquez dans votre livre comment se fait que cette mémoire revient à la surface après autant d'années. Oui. Et vous faites un parallèle avec l'Holocauste. Oui. Vous voulez nous en parler ?
Il y a quelque chose où la sociologie est un échec, ou enfin la raison analytique est un échec, c'est devant les mouvements de la mémoire. Vous savez, pour l'Holocauste, c'est la même chose. Si vous lisez Elie Wiesel, par exemple, son autobiographie « Tous les fleuves vont à la mer », parce qu'Elie Wiesel, c'est un des plus grands écrivains vivants, lui-même survivant miraculeux d'Auschwitz. Pour la Shoah, c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose. C'est la même le long silence. Depuis novembre 1945, depuis le tribunal de Nuremberg, personne au monde, en fait, au monde civilisé, pouvait ignorer la monstruosité du génocide des Juifs, des autres peuples, opéré par les nazis. On savait. De plus, les survivants sont revenus à Paris, accueillis à l'hôtel Lutetia, etc., etc., sont revenus. Et pendant 50 ans, pratiquement, la Shoah n'était pas installée dans la conscience collective. Était une sorte de secret de famille refoulé, couvert de silence. Hilberg, par exemple, je prends l'exemple de mon livre, Hilberg, le grand historien juif autrichien, mais citoyen américain, qui a écrit La destruction des Juifs en Europe, c'est une œuvre tout à fait magistrale. La première édition, 1955, il n'a pas trouvé d'éditeur. Et c'est quand il approchait les 80 ans, vers la fin du siècle, vers la fin des 80, les années 80, que finalement, tout à coup, Hilberg est devenu la référence. Son livre a été tiré à des centaines de milliers d'exemplaires. La Shoah, enfin, était pénétrée la conscience collective. Et aujourd'hui, elle y est, heureusement, comme l'évidence, comme, si vous voulez, la mise en garde.
Une réalité et une mise en garde.
Une réalité qui est en même temps une mise en garde, puisque la bête est féconde. Enfin, n'importe quel moment, c'est probablement, ces horreurs peuvent... Enfin, on n'est pas à l'abri du ressurgissement de cette monstruosité. Donc,
mais vous évoquez... Vous...
Les peuples du tiers-monde, les peuples du Sud, la même chose se passe aujourd'hui. Se passe aujourd'hui avec quelque chose de plus... C'est que pour la plupart des peuples du Sud, l'ordre du monde actuel, du capitalisme globalisé, qui est légèrement en crise maintenant, mais les États renflouent les brigands et ça va continuer.
Oui, vous racontez dans votre livre d'ailleurs que la crise n'est pas la crise pour tout le monde, notamment dans le domaine de l'agroalimentaire, la bourse de Chicago. Décrivez-nous un peu ce que vous nous racontez.
Je termine justement
cet argumenté.
Excusez-moi, non, je vous remercie de me donner la parole. Pour eux... Pour les peuples du Sud, il y a une filiation abominable, comme dit Abdelaziz Bouteflika, entre les crimes de la conquête, quand le monde a été unifié par les Occidentaux. Les Occidentaux, enfin les Blancs, n'ont jamais été plus que... sont aujourd'hui 13% de la population, dominent la planète totalement depuis 500 ans. depuis la conquête des Amériques, depuis la conquête des Amériques, à travers différents systèmes successifs, le commerce, la conquête, le génocide des populations indiennes, ensuite le commerce triangulaire avec esclavage et pillage des matières premières d'outre-mer, ensuite l'occupation territoriale par le crime colonial, par Léopold II, qui a tué 10 millions de Congolais sur 20. Il y avait 20 millions de Congolais au moment où il a installé son fief privé. Il a commencé à couper les mains pour ceux qui ne voulaient pas se soumettre au travail forcé.
Et de cela aussi, on en a parlé très très tard, même en Belgique.
Très tard. Léopold II est un des grands assassins de l'histoire. Ça vaut Genghis Khan, Hitler, Staline, etc. Enfin, 10 millions de Congolais ont été massacrés en moins d'une génération par Léopold II et ses successeurs. Et alors, c'est le dernier avatar de ces systèmes de domination occidentale. Je parle maintenant de la perspective des pays du Sud, des peuples du Sud. Pour les peuples du Sud, l'actuel ordre mondial du capitalisme globalisé, hein, n'est rien d'autre qu'en filiation abominable, pour prendre Bouteflika, le dernier, le plus cruel, le plus cynique, le plus planétaire des systèmes d'exploitation et de domination occidentale. Et c'est vrai, tous les 5 secondes, un enfant en dessous de 10 ans meurt de faim, c'est le chiffre de l'FAO. Hein. Tous les 5 secondes, l'année dernière, un enfant en dessous de 10 ans meurt de faim, 100 000 personnes meurent de faim ou de ses suites immédiates tous les jours. Et aujourd'hui où nous parlons, 923 millions de personnes, plus d'un homme sur 6 sur la planète, est gravement et en permanence sous-alimentée. Et ceci, la même FAO le dit, Organisation spécialisée des Nations Unies, sur une planète qui pourrait nourrir, dans l'étape actuelle du développement de son agriculture, sans problème, 12 milliards d'êtres humains. Nous sommes 6,3. Donc le double de l'humanité pourrait être nourrie sans problème sur cette planète qui croule sous les richesses. Or, encore une fois, j'ai donné les chiffres des victimes, le massacre quotidien tue des centaines de milliers de personnes de faim. Il n'y a donc aucune, là où nous parlons au début de ce millénaire, aucune quelconque fatalité pour ce massacre de la faim, de l'eau polluée, des épidémies, etc., dont sont victimes les peuples du Sud. Un enfant qui meurt de faim, maintenant, au moment où nous parlons, est assassiné.
Alors, les assassins, vous les identifiez aussi, notamment pour ce qui est de l'explosion des prix alimentaires qui sont en train d'accroître la famine dans les pays du Sud. Alors vous avez identifié 3 coupables, 3 assassins, le FMI, la spéculation de l'agriculture, des prix agricoles, et alors la conversion d'une grande part des terrains agricoles qui étaient destinés à l'agriculture vivrière en agriculture destinée à fournir des carburants.
Vous avez tout à fait raison. L'aveuglement de l'Occident, le cynisme et son obstination dans sa domination meurtrière et arrogante sur la planète se manifestent, par exemple, dans la fabrication des agrocarburants. L'année dernière, je prends le premier producteur des agrocarburants du monde, les États-Unis ont brûlé 138 millions de maïs, le tiers de leur récolte, plus des centaines de millions de tonnes de blé, pour en faire du bioéthanol et du biodiesel, enfin du agroéthanol et du agrodiesel, pour des raisons climatiques, faire rouler des centaines de millions de voitures et sauvegarder le climat en même temps, et pour se libérer de l'extrême dépendance du pétrole du Moyen-Orient. Mais brûler au niveau de centaines de millions de tonnes de la nourriture, c'est priver ceux qui ont faim de ces nourritures. Je vous donne un seul exemple. Si vous avez une voiture qui fonctionne à l'agrocarburant, au bioéthanol, et s'il a un réservoir de 50 litres, comme voiture normale, 50 litres, vous remplissez votre réservoir avec du bioéthanol fait de maïs, vous devez brûler 358 kilos de maïs. Avec 358 kilos de maïs, un enfant du Mexique ou de Zambie, où le maïs est une nourriture de base, vit une année. Donc,
une année contre un plein.
Oui, une année contre un plein. Donc, les, la fabrication massive et progressive, et l'Europe veut s'y mettre maintenant jusqu'en dans 12 ans, jusqu'en 2020, la directive européenne dit jusqu'en 2020, le 10% des besoins en carburant dans les 27 pays de l'Union européenne doivent être couverts par de l'essence végétale, enfin par des carburants végétaux au lieu des carburants fossiles. Cet aveuglement, cette arrogance qui fait, nous voulons faire rouler nos voitures, et peu importe si au-delà des mers, les enfants meurent de faim, c'est une illustration presque paradigmatique de cet aveuglement de l'Occident, son arrogance dont je parle dans mon livre. Même chose pour la spéculation, la crise financière fait qu'à la bourse, des valeurs, les actions, etc. tombent. Alors donc les grands hedge funds migrent, enfin les grands spéculateurs ont migré, continuent à migrer sur la vieille bourse des matières premières agricoles à Chicago, où ils spéculent sur le riz, sur le blé, sur le soja, sur le maïs, etc., etc., sur le mil, et font exploser les prix. L'UNCTAD, qui est une organisation spécialisée des Nations Unies, dit que 37% de l'augmentation du prix du riz, et le riz a augmenté, je prends le riz parce que c'est l'aliment le plus consommé sur toute la planète, hein, avant le maïs et avant le blé, qui sont les trois aliments les plus, qui couvrent 70% de la nourriture de la planète, le riz a augmenté de 115% prix marché mondial, sans frais de transport, dans les derniers 8 mois. Dans les derniers 8 mois, c'était 1er janvier 2008, 31 août 2008. Dans cette période de 8 mois, le riz a augmenté de 115%. Et 37%, dit l'UNCTAD, dit la CNUSET en français, dit la CNUSET, à l'aide, 37% de cette augmentation formidable est du gain spéculatif, est purement gain spéculatif. J'habite à Genève, l'UBS, qui est la plus grande... L'Union Banque Suisse, la plus immorale, enfin, elles sont tous dépourvues de morale, mais enfin, pas... Mais la plus grande banque, la cinquième du monde et la plus grande banque de Suisse, l'Union Banque Suisse, vend aujourd'hui à ses clients, j'ai vu le prospectus, des exchange trade certificates, des certificats sur le riz, avec l'argument... En 8 mois, ces certificats ont augmenté 35%. Vous faites un gain net de 35% si vous achetez ces certificats de pure spéculation sur le riz. Évidemment, les gens les achètent, etc., etc.
C'est là où on voit l'arrogance de l'Occident.
L'arrogance de l'Occident qui, encore une fois, fait exploser, au nom du libre marché, etc., fait exploser les prix des matières premières agricoles dont dépend la vie. En Haïti, aujourd'hui, 6 millions des 9 millions d'Haïtiens mangent des gâteaux de boue.
Racontez un peu ça, parce que c'est un des chapitres les plus durs de votre livre.
Je prends un exemple qui est Haïti, qui est un magnifique, magnifique pays, qui est né d'une insurrection des esclaves en 1803 au bois Caïman. Guerre de libération, a résisté même à Napoléon, au corps expéditionnaire napoléonien, qui est aujourd'hui malheureusement le pays le plus pauvre de l'Amérique latine, deuxième était la Bolivie, mais qui viennent de changer de gouvernement et reprendre en main les hydrocarbures et les minéraux. Et maintenant, l'État a les moyens de combattre la misère. En Haïti, malheureusement, ce n'est pas le cas. Haïti, il y a 9 millions d'habitants. On consomme la farine et le riz. La farine est importée à 100%, le riz à 80%, donc les très, très pauvres, et 6 millions des 9 millions d'Haïtiens, Haïtiens, sont extraordinairement pauvres. Au niveau de la Banque mondiale, $1 par jour, c'est vraiment, sont à l'extrême limite de la survie. Quand le riz augmente de 115% le prix sur le marché, ben la ménagère, la mère de famille qui a 5 ou 6 enfants, ne peut acheter du riz qu'avec un verre. Qu'au niveau d'un gobelet, et doit le diluer dans de l'eau. Enfin, c'est effrayant. Alors donc, les Haïtiens, qui sont des gens très inventifs, même plongés dans le désespoir le plus noir, ont inventé ce qu'ils appellent les biscuits durs, c'est-à-dire des gâteaux de boue avec de la graisse végétale, enfin mêlée à des feuilles, etc., des déchets végétaux, graisse végétale, qui sèchent au soleil, qui sont découpés en rondelles, qui sont vendus sur le marché, qui ont une vertu, ils bloquent l'estomac, donc font diminuer la souffrance de la faim, mais évidemment conduisent à la mort, à la sous-alimentation progressive, et à l'agonie. Mais 6 millions d'Haïtiens n'ont plus accès, parce qu'ils n'ont pas les moyens monétaires nécessaires, n'ont plus accès à une nourriture dont les prix ont explosé à cause des agrocarburants, à cause de la spéculation.
Et du FMI.
Et le FMI, cette absurdité.
Le Fonds monétaire international.
Le Fonds monétaire international qui a imposé, c'est la troisième cause de l'explosion des prix alimentaires dans le monde. Vous savez que les 122 pays de l'hémisphère sud ont eu au 31 décembre dernier une dette extérieure cumulée de 2100 milliards de dollars. Cette dette extérieure, on n'a pas le temps de savoir d'où, discuter maintenant d'où elle vient, mais enfin, où l'Occident est déjà fortement coupable. Cette dette extérieure fait que le FMI, le Fonds monétaire international, qui administre cette dette, est le vrai maître au Niger, au Mali, en Mongolie, au Bangladesh, au Honduras. Le vrai maître impose la politique étrangère, la politique agricole, économique, et conformément et tout à fait normalement, logiquement, conforme à sa propre logique, fidèle à sa propre logique, le FMI impose évidemment l'agriculture d'exportation. C'est simplement avec de l'argent gagné à l'exportation des biens agricoles dans un pays agricole qu'on peut gagner des dollars, des francs suisses ou des euros, enfin des monnaies fortes avec laquelle vous pouvez servir auprès des banques du Nord les intérêts, les amortissements de votre dette.
Le Fonds monétaire international exige des devises fortes, ne veut pas se faire rembourser en devises locales.
En gourde ou en bolivar ou en peso, etc., ça ne va pas. Et vous avez cette absurdité absolue que vous avez le Mali qui a exporté l'année dernière 380 000 tonnes de coton imposé par cette logique du Fonds monétaire international et qui doit importer plus du 65 jusqu'à 70% de sa nourriture. Et quoi ? Du riz qui vient du Cambodge, de Thaïlande essentiellement, qui reste en mer pendant deux mois et demi, et au prix du marché mondial qui a explosé maintenant pour le riz, il faut encore ajouter, parce que c'est free on board, il faut ajouter les frais du pétrole qui a augmenté, les frais de transport. Autrement dit, le Mali, qui est un vieux, magnifique pays avec des culture paysanne, mais ancestrale, avec un paysanat qui connaît son métier, qui travaille les Bambara, les Tukulun, les Haoussa, les Soninké, des civilisations mondiales magnifiques, eh bien ce paysanat-là est ruiné, réduit à la sous-alimentation par le diktat du Fonds monétaire international qui impose la culture d'exportation et évidemment qu'il impose au détriment de la culture vivrière, de la souveraineté alimentaire, de l'auto-alimentation. Parce que là où pousse le coton, où pousse la canne à sucre, ben, ne pousse pas ni le manioc, ni les haricots rouges, ni le mil.
Alors,
donc, FMI est dominé totalement par l'Occident. C'est un crime contre l'humanité que ces programmes d'ajustement structurel.
Alors, donc vous avez évoqué les trois causes de l'explosion des prix alimentaires et donc de la famine, le FMI, Fonds monétaire international, la spéculation et la conversion de l'agriculture vivrière en agrocarburant. Le constat est là, mais vous évoquez aussi trois pistes qui permettraient d'endiguer la reconstitution mémorielle, la prise de conscience des droits humains et la construction nationale dans les pays du Sud. Alors, on n'aura pas le temps d'évoquer les trois sujets, mais j'aurais aimé que la construction... Et on a parlé de la mémoire déjà. J'aurais voulu que vous parliez un peu de la construction nationale dans les pays du Sud. Est-ce que vous voulez dire que il faut un retour aux nations? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de repli identitaire?
La résurgence de la mémoire blessée de l'esclavage, du colonialisme, la revendication d'identité que les pays du Sud maintenant formulent avec vigueur, le refus de de cette prétention universaliste de l'Occident, ce sont double langage, les droits de l'homme, enfin, qui sont niés par l'Occident au-delà de ses frontières d'une façon effroyable, tous les jours, a produit quand même des choses extraordinaires déjà dans les pays du Sud. Maintenant, je prends l'exemple de la Bolivie. Depuis 500 ans, la première fois, le 15 décembre 2005, elle a été élue à la présidence de la République avec une majorité de 53%, un paysan aymara, vraiment un indien, paysan aymara du nom de Evo Morales Ayma. Et qu'est-ce qu'il a fait dans les premiers 6 mois de son mandat, qui a commencé en 2006, 1er janvier 2006, il a rétabli la souveraineté énergétique, comme il dit, sur les richesses du pays. Il a nationalisé, en fait, dans un système compliqué de transformer les sociétés étrangères en sociétés de services, etc. Il a, pour aller vite, on dit nationalisé, mais c'est plus compliqué, c'est décrit dans...
Oui, il faudra lire votre livre, parce qu'on ne pourra pas entrer dans le détail de toutes les explications, mais dans votre livre, on les trouve.
Il a repris le contrôle des champs pétroliers, des champs gaziers et des mines. Et tout à coup, ce deuxième pays, le plus pauvre d'Amérique latine, hein, avec une mortalité enfantine, tout de suite elle est Haïti, hein, où des centaines de milliers de femmes sont mortes en couche jusqu'à récemment, par manque de nourriture, par infection, par manque de soins. Et ce pays, tout à coup, se trouve à la tête d'une fortune de milliards et de milliards de dollars. Avant la nationalisation, Shell, les sociétés minières, les sociétés gazières et les sociétés pétrolières prenaient en moyenne 95%, 95% du revenu. Et l'État bolivien, 5%. Aujourd'hui, 18% pour les sociétés étrangères, 82% pour le peuple, pour l'État bolivien.
Alors, on va devoir terminer cette émission.
C'est un exemple que la mémoire blessée, quand il se transforme en force historique, force politique, peut faire des miracles et libérer un peuple. Mais il y a un deuxième espoir, c'est qu'à travers la crise des marchés financiers dans les capitales occidentales, le démasquage du banditisme bancaire, finalement, on a vu que c'était des bandits et non pas des gens qui suivaient les lois du marché, etc. C'était l'avidité, l'arrogance, la volonté de pouvoir, de s'enrichir à tout prix. Eh bien, ces masques sont tombés. En Occident, il y a une sorte de réveil qui se fait, un questionnement qui se fait. Nous vivons en démocratie. La Belgique est une très vieille et vivante démocratie. La France aussi, la Suisse peut-être un peu moins, mais enfin, d'autres pays en Europe occidentale où les opinions sont libres, où l'information circule. Et j'ai l'espoir vraiment réaliste qu'une pensée nouvelle, une conscience nouvelle du monde, de solidarité avec les pays du Sud, va naître de cette crise actuelle, et que le nombre d'Occidentaux qui veulent renverser cet ordre meurtrier et absurde du monde va rapidement croissant, imposant au gouvernement un changement radical.
Jean Ziegler, je vous remercie. On vous écouterait pendant des heures tellement vous êtes un avocat non seulement informé, mais en plus passionné. C'est vrai qu'après avoir lu votre livre, nous partageons cet espoir que vous formulez. Et peut-être que pour conclure, je reprendrai une phrase que vous citez à l'intérieur de votre ouvrage. Je ne sais plus dans quel chapitre, mais elle m'a frappé. C'est une phrase du philosophe Emmanuel Kant. « L'inhumanité infligée à un autre détruit l'humanité en moi ». Vous avez contribué, en tout cas avec ce livre, à restaurer l'humanité qui est en chacun des lecteurs de votre livre. Et je les souhaite très, très nombreux parce que votre livre est passionnant autant que vous. Merci Jean Ziegler.
Merci de votre gentillesse.